Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour à tous, bienvenue au Guide de l'auto, 201e émission. Germain, on est le 4 février et il fait frette pas à peu près.
Oui, il fait... c'est pas chaud.
Mais en fait, dans le studio, il fait particulièrement chaud parce que, aussi drôle que ça puisse paraître, autant dehors on gèle, autant dans le studio on crève parce que le thermostat est brisé. Mais ça, c'est une autre histoire.
Absolument, et je doute que ça intéresse les gens.
C'est ça, mais moi ça m'intéresse particulièrement en ce moment parce qu'à chaque minute qu'on va se parler, ça se peut que j'enlève une pleure. Mais...
qu'on en finisse au plus
c'est ça. Bon, en deuxième partie d'émission, on va parler avec Gino Desrosiers, porte-parole de la SAC. Vous savez pourquoi. Évidemment, il y a un gros branle-bas de combat qui se passe du côté de la Société d'assurance automobile du Québec, à savoir la refonte complète du site web et des services, conséquemment, qui vont en découler. Mais en attendant, quelques nouvelles cette semaine. Peut-être un mot sur le fait que le Salon de l'Auto de Montréal a accueilli plus de 150 000 personnes.
Près de 150 000 personnes. Donc, on n'a pas tout à fait franchi.
Mais moi, j'ai passé le tourniquet 8-10 fois. Là,
oui, c'est que... ça. Fait qu'on n'est pas loin du 150 000.
C'est ça.
Mais oui, donc, ça a dépassé nos attentes personnelles,
ben
je
oui,
pense.
Vraiment.
Cela dit, il y a eu beaucoup de ces visiteurs-là qui ont été déçus par la grandeur du salon, déçus par l'absence de manufacturiers importants. Alors, à quoi ressemblera l'édition 2024 du
salon
de
l'auto? Ça sera un
défi. On a un an pour se retrousser les manches et surtout pour activer cette opération reséduction des visiteurs en leur promettant que des manufacturiers qui étaient absents, ben, seront de retour, en leur promettant des attractions qui seront encore plus grandioses que les 5 Ferrari les plus légendaires.
La bonne nouvelle, oui, c'est qu'on sait au moins que les gens sont là.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est pas comme si on avait déserté ce genre d'événement-là. Les gens sont encore intéressés, mais encore faut-il les séduire.
Oui.
Bon, évidemment, le véhicule qui a fait parler cette semaine, on l'attendait de pied ferme. On avait beaucoup, beaucoup de publicité qui nous teasait, si tu me permets l'expression, l'arrivée de ce modèle-là sur les réseaux sociaux. C'est le Mazda CX-90, bien sûr remplaçant du CX-9, qui a été dévoilé un peu plus tôt cette semaine. Sacrée belle gueule, si tu veux mon avis. Pas que ça réinvente un VUS, parce que ça demeure le format d'un VUS.
VUS intermédiaire à trois rangées.
C'est
là,
ça. C'est pas mal plus sexy qu'un Highlander, qu'un Pathfinder, en termes de design. Là.
Oui, et on nous donne encore l'impression d'un véhicule assez raffiné. On poursuit dans la même lignée qu'on avait avec mettons le dernier CX-5, le CX-50. Mais la grande nouveauté, si tu veux mon avis, ben, ça se loge sous le capot. On arrive enfin avec une nouvelle mécanique chez Mazda. Et dans le cas du CX-90, on aura droit à un moteur à 6 cylindres en ligne de 3,3 litres. C'est pas une configuration mécanique à laquelle on est habitué dans ce type de véhicule-là. Alors, ce sera nouveau, ce sera rafraîchissant. On sera à 340 chevaux, 369 livres-pieds à condition d'utiliser du super, bien évidemment. Et grande surprise aussi, on n'a pas la boîte automatique à 6 rapports.
Non.
On s'est modernisé de ce côté-là. On ajoute 2 rapports supplémentaires et on ajoute par-dessus tout ça, un système d'hybridation légère qui permettra là à basse vitesse de servir d'appoint.
C'est un alterno-démarreur, c'est ça. C'est un alterno-démarreur 48 volts.
Oui.
Donc ça...
Comme on retrouve chez d'autres manufacturiers.
Exactement.
Mais c'est toujours apprécié parce que ça donne cette espèce de couple instantané au démarrage. Puis ça fait jamais de mal à la consommation. On arrive aussi avec une mécanique hybride rechargeable. Donc, encore là, une belle nouveauté chez Mazda. Donc, on combine un moteur turbo-compressé de 2,5 litres, qu'on connaît bien, mais avec une batterie de 17,8 kWh.
Donc, le rendant éligible au crédit, tout dépendant des prix qui n'ont pas été dévoilés. Mais,
oui, et si les critères ne sont pas modifiés d'ici l'arrivée du véhicule, parce que ce sera un modèle 2024, mais qui devrait arriver d'ici l'été, là, d'ici le printemps.
Moteur électrique qui est pris en sandwich entre la transmission 8 rapports et le moteur turbo. Batterie, comme tu disais, 17,8 kWh. Et attendez-vous à une autonomie qui va être entre 50 et 60 km. Les chiffres ne sont pas officiels, je crois. Moi, j'ai pu tester ces motorisations-là.
Mais dans une coquille différente.
C'est ça, c'est-à-dire dans le CX-60 qui est vendu présentement du côté de l'Europe. Véhicule qui est un peu plus compact, à deux rangées de sièges, dont le format se rapproche beaucoup plus de celui d'un CX-50, par exemple. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Couple initial qui est magnifique. Le rendement de cette mécanique-là est intéressant. La transmission, ça fait toute la différence. Bien sûr, on est habitué à des 6 vitesses chez Mazda. Et de retrouver une motorisation à 6 cylindres, parce que Mazda continue de croire énormément au moteur à combustion.
Mais on y croit aussi, là.
Oui, okay. C'est ça.
Nous, au Québec, on vit dans cette espèce de bulle électrique, là, mais ailleurs sur la planète, des motorisations à essence, ça a encore sa place.
Absolument.
Le rendement est intéressant et on le sait.
Et on va nous prouver que ça peut être efficace sur le plan énergétique aussi.
Et on parlait de couple un petit peu plus tôt. Un moteur à 6 cylindres en ligne, c'est réputé pour être généreux en couple. Et là, ajoute à ça l'hybridation légère, ça devrait être bien, là.
Alors, es-tu capable de me nommer le dernier produit Mazda qui a été doté d'un moteur à 6 cylindres qui ne provenait pas de chez Ford?
Ah, ben là, on recule un peu loin, là. Vite de même, je n'ai pas la réponse.
929 Serenia.
Ah, et c'était un moteur de conception Mazda?
C'était un moteur de conception Mazda, le 6 cylindres. Bon, il y a eu des V6 2.5 litres aussi étirés dans des Mazda 626, ouais. MX6 Mystère, qu'on retrouvait aussi dans le Ford Probe, notamment.
Parce que les dernières Mazda 6 à 6 cylindres, ou même
les Ford 3 litres.
Les B4000, c'était directement de chez Ford. Là.
C'est ça, exactement. Autre nouvelle cette semaine, l'autonomie de l'IONIQ 6 qui a été dévoilée. C'est drôle qu'on parle d'autonomie cette semaine parce que tout ce dont on entend parler dans les médias, c'est l'autonomie des véhicules électriques qui baisse quand il fait moins 25. Je suis en mesure de vous le confirmer puisque je conduis un véhicule électrique cette semaine, en l'occurrence le Mercedes-Benz EQS, qui voit son autonomie baissée de 50%, mais il fait moins 25.
Oui, c'est un peu radical. En même temps, on voit les véhicules à essence, leur consommation augmenter aussi. Bon, pas de 50%, mais c'est difficile pour une mécanique d'évoluer dans un climat aussi difficile. Donc, cette semaine, on a eu les chiffres de l'Agence de protection environnementale des États-Unis, l'EPA, qui a dit que pour la nouvelle Hyundai IONIQ 6, cette nouvelle berline qui fait parler d'elle, j'ai l'impression chaque semaine, on aura droit à une autonomie de 270 à 361 000. Du côté du Canada, on n'a pas annoncé encore les cotes officielles, mais si on fait la conversion par nous-mêmes, ça nous amène à une autonomie qui pourrait atteindre jusqu'à 581 km.
Ce qui est assez intéressant, considérant qu'on exploite la même technologie que l'IONIQ 5.
Est-ce que ce serait un véhicule plus petit, mais surtout plus aérodynamique.
Ben voilà, toute la différence est là, parce que l'IONIQ 5 n'est pas aérodynamique. Le CX de l'IONIQ 5 est de 0,34. C'est pas très bon. Alors que, dans le cas de cette voiture-là, clairement, les lignes sont plus fluides et on va flirter avec le bas 0.2. Là. On sait que la voiture la plus aérodynamique sur le marché actuellement, c'est la Mercedes EQS, berline et la Lucid Air, qui sont à du 0.20, 0.21.
Et quand on regarde de côté une IONIQ 6 et une EQS, la berline, bien entendu, on retrouve un peu ce même équilibre entre l'avant et l'arrière et dans la prononciation des courbes. Là. Alors, c'est normal que le coefficient soit pas.
Mais c'est sûr que
soit pas très différent.
De plus petites roues, une ligne beaucoup plus aérodynamique.
Une masse totale qui est peut-être inférieure aussi.
Ben, peut-être aussi.
On pourra le voir quand on aura toutes les spécifications en main.
Parce que l'IONIQ 5, dans sa version la plus efficace, est à 499 km. Ouais. On vient ajouter quelques 80 km supplémentaires avec la même technologie. Ça prouve que la résistance au vent, la résistance des pneus, ça a un impact significatif.